Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Marc Gollery, dont Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Nouvelle série consacrée à quatre grandes figures qui dominent le paysage politique asiatique et dont l'influence va bien au-delà. Demain, nous parlerons de Shinzo Abe, premier ministre japonais. Mercredi, de Narendra Modi, premier ministre indien. Jeudi, de Kim Jong-un, le cher leader de Corée du Nord. Et pour commencer, direction la Chine. Xi Jinping, le nouveau grand timonier, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Il y a 70 ans jour pour jour, le camarade Mao Zedong a déclaré solennellement la fondation de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, la Chine socialiste se dresse fièrement à l'orient du monde. Aucune force ne peut ébranler la position de notre grande patrie. Aucune force ne peut entraver le progrès du peuple chinois et de la nation chinoise. Chers camarades, chers amis, dans notre marche en avant, nous resterons fidèles à la direction du Parti communiste chinois, au rôle du maître du pays, du peuple, à la voie du socialisme à la chinoise, en appliquant dans tous les domaines la théorie, la ligne, la stratégie du Parti communiste chinois. Dans notre marche en avant, nous resterons fidèles au principe de la réunification pacifique, un pays, deux systèmes, maintenant la prospérité et la stabilité à long terme de Hong Kong et de Macao. En développant pacifiquement les relations interdétroits, nous unirons les Chinois aux Chinois pour œuvrer ensemble à la réunification totale de la mère patrie.
Des milliers de militaires, des centaines de chars, les armes de dernière génération. Pékin a vu très grand pour commémorer le 70e anniversaire de la République populaire du Chine sur la place Tiananmen, lieu même de sa proclamation par Mao Zedong. Cette fois, c'est Xi Jinping qui était au centre du décor, se tenant au-dessus d'un immense portrait du grand timonier. L'actuel président chinois a affirmé avec force sa détermination à protéger le régime, à poursuivre le développement de la puissance de son pays, que rien ne peut ébranler, a-t-il dit. Lors de sa réélection à la tête du parti, lors du 19e congrès du Parti communiste, en 2017, Xi Jinping avait vu son nom et sa pensée inscrits dans la charte du parti, une distinction que seul Mao avait eue de son vivant. Le signe peut-être d'un retour assez inédit, de la personnification du pouvoir, en tout cas depuis l'ouverture amorcée il y a 4 décennies par Deng Xiaoping, qui, rappelons-le, avait limité à 2 le nombre de mandats pour un président. Mais jusqu'où ira Xi Jinping? Comment comprendre cette concentration du pouvoir? Son autoritarisme cacherait-il une fragilité du régime chinois? Comment cet homme s'est-il hissé tout en haut du pouvoir? Quelle filiation établir avec le père fondateur? Xi Jinping se prend-il pour le nouveau grand timonier? Voilà la grande question sur laquelle on va se pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité 2 personnes. D'abord, Juliette Geneva, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. À vos côtés, François Bougon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour Mediapart, ancien correspondant à Pékin de 2005 à 2010, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. On a eu l'occasion de vous entendre autour de ces ouvrages, en particulier l'année dernière, La Chine sous contrôle, qui était paru au Seuil, et puis aussi plus récemment, Dans la tête de Xi Jinping, paru chez Actes Sud. Peut-être un mot sur les commémorations, l'un et l'autre, pour les 70 ans donc de la République populaire de Chine, une démonstration de force militaire, moi en tout cas, qui m'a coupé mon souffle à moi, on en parlait juste avant de prendre l'antenne, vous me disiez, ben non, finalement, c'est à peu près dans la droite ligne de ce qui se passe habituellement. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement impressionné avec ce Xi Jinping habillé en costume Mao noir, au balcon de la porte de Tiananmen, à l'endroit même où le grand timonier proclama la fondation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Comment vous jugez, vous, cette manifestation? On a quand même eu un Xi Jinping sûr de ses forces à l'instar de son pays. C'est quand même l'impression qui était montrée par cette manifestation, Juliette Geneva.
Alors, je pense que un des buts majeurs de la posture de Xi Jinping, c'était évidemment de donner une contre-image à ce qui se passe à Hong Kong en ce moment, qui est la crise la plus importante que le régime connaît depuis Tiananmen, et qui touche vraiment au cœur de ce que le parti veut être sa légitimité, à savoir d'assurer la stabilité politique et sociale du pays. Donc là, à Hong Kong, on est en situation quasi de guerre civile. et les démonstrations de force en particulier, mais de puissance politique que Xi Jinping a voulu montrer le 1er octobre, avait à mon sens pour but essentiel de couvrir les manifestations à Hong Kong.
Alors on reviendra évidemment sur la situation à Hong Kong parce que évidemment c'est très important, mais c'est vrai qu'on a voulu quand même aujourd'hui centrer sur la figure de Xi Jinping parce qu'au fond c'est lui qui incarne le pouvoir et donc on a voulu faire son portrait dans un instant. François Bougon, sur ces manifestations, vous n'avez pas été impressionné, vous avez l'habitude aussi.
En fait, je trouve que dans ce genre d'événement en Chine, il y a toujours une permanence, c'est-à-dire que avec la France, c'est un des derniers pays au monde à organiser des défilés militaires pour vanter le régime en fait politique. Tous les 10 ans normalement il y avait un défilé pour célébrer l'année en neuf en fait, donc on est vraiment...
Ah oui, vous étiez au précédent, vous,
en 2009? Oui, ouais. Et en 2009, c'était un peu la même chose. C'était juste après les Jeux Olympiques. Donc, il y avait quand même ce sentiment de puissance. Mais là, ce qui m'a frappé, c'est quand même l'apparition. Et puisque vous parlez du nouveau grand timonier, c'est l'apparition de grands portraits de Xi Jinping.
Absolument.
Donc, en fait, ça, pour moi, c'est, il y a à la fois de la permanence et la grande nouveauté. À mon avis, c'est ça. C'est cette mise en scène de la grande puissance aujourd'hui de cet homme fort qu'est Xi Jinping.
Oui, parce que s'il y avait ces portraits de Mao que j'ai évoqués, il y avait aussi des portraits absolument gigantesques de Xi Jinping. Ça, on n'a pas tellement l'habitude de voir ça, hein, Juliette Genva. Cette personnification du pouvoir, est-ce qu'il y a quelque chose là d'inédit dans ce culte de la personnalité?
C'est sûr qu'il reprend des méthodes et des pratiques politiques qu'on n'avait pas vues depuis Mao. La différence, c'est que la personnalité politique de Xi Jinping, elle est quand même beaucoup plus conservatrice que ne l'était Mao. Donc je trouve que la comparaison est quand même assez difficile parce que malgré tous les remous qu'a vécu Xi Jinping dans son apprentissage politique et son expérience politique depuis sa plus tendre jeunesse, il a quand même baigné dans le cadre préétabli du parti depuis toujours. Il a suivi son père. Certes, il a été victime de la révolution culturelle, mais après ça, il a vraiment suivi les échelons du parti. Il a été désigné comme successeur. Et ensuite, il a évidemment fait des choix politiques que d'autres n'avaient pas fait. Mais disons que je trouve la comparaison quand même assez difficile compte tenu des différents contextes historiques. Mao, c'était le révolutionnaire. Xi Jinping, c'est quand même plutôt le réactionnaire.
François Bougon, si on revient au début de Xi Jinping, en tout cas à ses débuts vraiment à la tête du pouvoir, il arrive en novembre 2012, vous racontez son intronisation. Je ne sais plus si c'est le terme que vous utilisez, intronisation, dans votre livre, peu importe. Mais en tout cas, vous racontez ce retard tout à fait inhabituel dans la cérémonie consacrée à la présentation justement des nouveaux hommes forts du parti. Il arrive comme ça, il apparaît finalement devant la foule, il salue tout le monde avec derrière une grande peinture, vous dites tout à fait dans la tradition des peintres chinois. Quand il apparaît au public, c'est un homme, vous le décrivez, extrêmement sûr de lui, assez charismatique. Il rompt quand même avec Hu Jintao, son prédécesseur.
Oui.
Très différent, l'image.
C'est vrai qu'il y a eu, alors moi j'étais à Pékin à ce moment-là, et en fait, en tout cas, d'un point de vue strictement formel, sa manière de s'exprimer était beaucoup plus déliée, beaucoup plus facile, presque de tous les jours, par rapport au discours qu'on avait subi, je dirais, les années précédentes de la part de Hu Jintao. Et on a forcément ces deux personnalités totalement différentes. Dans un cas, le premier, c'est-à-dire dans le cas de Hu Jintao, vous avez un bureaucrate totalement effacé. Vous sentez que les responsabilités lui pèsent sur les épaules, qu'il est mis... Il est dans la tradition de Deng Xiaoping, c'est-à-dire il mise sur un collectif. Et avec Xi Jinping, la vraie différence, c'est que vous avez une personnalité. Alors, elle s'inscrit dans une organisation qui s'appelle le Parti communiste chinois, mais il y a quand même une personnalité, un charisme.
Une personnalité, un charisme, et puis aussi une histoire personnelle, Juliette Genva, parce que on ne le sait peut-être pas toujours ici en France, mais il est le fils de Xi Zongshun, qui était un compagnon de Mao, alors qui a fait l'objet d'une purge, mais qui a été quand même vice-premier ministre. C'était un homme extrêmement important, et évidemment que quand Xi Jinping arrive au pouvoir, il porte aussi ce passé-là.
Bien sûr, j'en parlais avec François Bougon juste en attendant. Au sein même en fait de sa famille, il y avait des dissensions dans les partis à prendre dans les années 50. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement travaillé par le fait qu'il faut faire des choix politiques. Parce que le parti, on en a parfois la perception comme d'un cadre très rigide, alors qu'en fait, évidemment, au sein du parti, il y a des débats extrêmement intenses.
Il y a des courants, des divergences.
Et donc, Xi Jinping a tout, ensuite, il a fait l'expérience fondamentale pour sa personnalité politique de la révolution culturelle. Il a été envoyé à la campagne où il a été persécuté. Son père lui-même avait été persécuté. Il a été séparé de sa famille. Mais au moment de la révolution culturelle, il a, en fait, fait le choix, d'épouser le parti, envers et contre tout. Alors, pourquoi? Malgré tous les sévices qu'avait subi sa famille, on peut voir ça comme une ambition politique très forte. On peut voir ça aussi comme une sorte de monomanie qui verrait le parti comme la seule planche de salut pour la Chine contemporaine.
François Bougon, comment est-ce que vous analysez les choses, alors même qu'effectivement son père a fait l'objet d'une purge, qu'il a vécu lui-même, Xi Jinping, cette révolution culturelle, il est effectivement envoyé à la campagne, il fait partie de ces jeunes instruits, je mets des guillemets dans la formule, mais c'est comme ça qu'on les appelait, qu'on envoyait à la campagne, alors je ne sais pas exactement quel type de formation il a reçu, et les formations, je mets une fois encore entre guillemets, mais c'est ça, évidemment.
Oui, alors après, moi, c'est un des points que je développe, c'est que il faut éviter d'avoir une vision simpliste de la situation de Xi Jinping. Partir de l'idée
le
que
le père de Xi Jinping,
voilà, le père de Xi Jinping, qu'il a été victime de Mao, donc forcément la famille de Xi Jinping et Xi Jinping serait anti-Mao. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Je me suis penché notamment sur les écrits de Xi Jinping, sur sa vie pendant la Révolution culturelle. Il y a encore et malgré tout, et c'est ce qu'il dit à son fils quand il le rencontre. Pendant les années de révolution culturelle, il lui dit qu'il faut qu'il fasse encore confiance au Parti communiste. Donc il y a cette idée quand même chez beaucoup de communistes qui sont victimes de la révolution culturelle que c'est le parti, faut quand même faire confiance au parti, que Mao a été influencé par les ultra-gauchistes, par sa femme, par Kang Shang qui était le chargé des services secrets. Mais au fond, il garde cette confiance dans le Parti communiste. Donc avoir cette vision de se dire « Ah, puisque son père était victime de Mao, il va être anticommuniste », je pense que c'est une vision assez simpliste. Et par ailleurs, et c'est ce qu'on dit ici, c'est que, à mon avis, il y a aussi une question personnelle, c'est-à-dire que c'est un fils d'eux, je pense qu'il a été forgé par cette histoire familiale. Xi Jinping, c'est un des premiers révolutionnaires dans le nord-ouest de la Chine. Il est là, c'est lui qui accueille les gens de la Longue Marche. Donc en fait, il baigne dans cette histoire communiste. Il se sent comme un fils d'eux, avant tout. Quand il reprend le parti en 2012 et tous les discours qu'il fait depuis, il a une vision messianique de ce parti. Mais c'est parce que il le vit comme quelque chose de chair et de sang. C'est-à-dire que sa mère, son père lui ont parlé de tout ça, de cette histoire révolutionnaire.
Comment est-ce qu'il vit cette formation? On l'envoie à la campagne dans le Fujian et le Zhejiang. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quel type de formation est-ce qu'il suit?
Il a été, en fait, c'est là aussi. Alors, il y a le c'est aussi un fils d'eux, c'est-à-dire quelqu'un qui bénéficie.
Donc, fils d'eux, c'est-à-dire
le fils de révolutionnaire. Donc, il bénéficie des réseaux qui sont assez puissants de son père, même pendant la révolution culturelle. C'est par exemple, il est l'un des privilégiés qui part donc du Shanxi où il se trouve et il peut intégrer l'université à Pékin, ce qui est rarissime à cette époque-là. Alors c'est une formation très sommaire, bien sûr, mais il est quand même dans une des plus grandes universités chinoises à l'époque. Et après, il va suivre une carrière de bureaucrate local dans le sud de la Chine.
Alors justement, quelle trace il va laisser? Parce qu'effectivement, dans les années 70, il étudie en génie chimique, ensuite il va adhérer à la Ligue de la Jeunesse Communiste, et puis ensuite au Parti Communiste Chinois. Il va s'y reprendre à plusieurs fois. Hein. Visiblement, il a essuyé quelques refus. 7 fois pour être adhéré au Parti Communiste Chinois. Et puis donc, il se lance en politique après l'université, d'abord comme secrétaire d'un membre de la commission militaire, futur ministre de la Défense, Geng Biao, et puis ensuite comme premier secrétaire du district de la région de Hebei, on est au début des années 80. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Juliette Genevac? Est-ce qu'on reconnaît déjà un style politique, une manière d'exercer le pouvoir? Est-ce que le Xi Jinping en puissance qu'on connaît aujourd'hui est déjà là?
Franchement, je ne pense pas. Moi, je pense que c'était une figure politique assez faible, extrêmement consensuelle, qui a vraiment fait aucune vague, qui a, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, très lentement gravi les échelons. Mmh. Et à mon sens, c'est la raison pour laquelle il a été désigné en 2007 comme le prochain leader du parti. C'était vraiment dans l'optique de leadership collectif où il fallait surtout établir un consensus, faire valoir un consensus et à mon avis, la personnalisation du pouvoir qu'on voit à l'œuvre depuis 2012, elle a été une surprise.
C'est parce qu'il était consensuel, François Bougon, qu'il est arrivé tout en haut du pouvoir ?
Ah oui, sûrement. En fait, ouais. Il a gravi tous les échelons. Après, sur le Xi Jinping cadre local, je pense qu'il était quand même assez malin, en fait. C'est parce qu'il a toujours compris qu'il fallait, pour asseoir son pouvoir, qu'il fallait développer le lieu où il se trouvait. Donc, par exemple, quand il est dans le Hebei, il a vu que un des trucs qui marchait bien, c'était les séries télévisées. Donc, il fait venir un studio. Il essaye de faire venir un studio pour produire des séries télévisées de costumes impériales, etc., etc. Après, quand il est à la fois dans le Chotiang ou le Futian, il a des relations assez proches avec les milieux économiques. Donc, en fait, je pense que le Xi Jinping qu'on voit aujourd'hui comme quelqu'un de très idéologique, c'est aussi quelqu'un, quand il est au niveau local, de très pragmatique. Donc, c'est peut-être aussi ça qui sert sa carrière. Ouais. Mais en tout cas, il a toujours su allier à la fois le pragmatisme pour servir ses intérêts personnels et les intérêts de sa carrière.
Et visiblement, ce qu'on voit aussi apparaître assez rapidement dans cette première partie de sa vie politique, c'est aussi sa lutte contre la corruption. Il est d'ailleurs notamment désigné maire d'une des villes de cette province de Fujian en remplacement d'une personnalité précisément accusée de corruption et accusée de népotisme. Donc on voit déjà que cette question de la lutte contre la corruption qui est en fait essentiel pour comprendre aussi le moment où il arrive au pouvoir. On se souvient de ce discours extrêmement fort dans lequel il dit qu'il va lutter contre les mouches et les tigres, c'est-à-dire comprendre contre la petite corruption et contre la grande corruption. Il y a vraiment un désir de lutte contre ce phénomène tout azimut. Alors, la question que je voulais vous poser, Juliette Genevard, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est une conviction personnelle ? Est-ce que réellement par sa nature, d'une certaine manière, il lutte contre la corruption parce qu'il trouve que, je ne sais pas, d'un point de vue moral, c'est pas correct. Ou est-ce que il y a au-delà de ça peut-être une question d'ordre plus politique ? Est-ce qu'il y a le sentiment, la conviction chez lui, par exemple, que la corruption pourrait mettre en péril l'avenir du parti ? Comment comprendre les choses, Juliette Genevard ? Est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est quelque chose qui est ancré fortement à l'intérieur de lui ?
Alors, je pense vraiment pas qu'il y ait de moralité à voir dans la lutte anticorruption de Xi Jinping. En effet, c'est pour lui, et c'est pas le seul du tout. C'est pour la plupart, à mon avis, l'essentiel des dirigeants communistes de sa génération, la corruption était clairement l'ennemi numéro un pour le parti. La corruption, elle est en fait structurelle à la manière dont les réformes économiques se sont développées en Chine depuis les années 80. Ça a été une sorte de paradoxe pour les économistes qui voyaient... Donc normalement, quand il y a beaucoup de croissance, la corruption décroît. En Chine, ça n'a pas été le cas. En Chine, on ne va pas entrer dans les détails, mais à mesure que la terre a été privatisée, disons que la corruption a été de pair avec la très forte croissance qu'on a vue pendant 40 ans en Chine entre 1978 et 2008. Donc la corruption était quelque chose de structurellement extrêmement dangereux pour le parti, puisque elle montrait les cadres comme étant poings et pieds liés avec les développeurs et donc cause de la très grande inégalité économique qui existe aujourd'hui en Chine. En même temps, c'est sûr qu'il a instrumentalisé cette peur du parti pour en faire un élément de son pouvoir personnel. Donc, il a purgé des ennemis, il s'est fait beaucoup d'ennemis avec le très grand nombre de personnes qui ont été victimes de sa lutte anticorruption. Et quand même quelque chose... c'était un problème pour le parti, la corruption, ça l'est toujours. Mais la manière dont Xi Jinping a mené cette campagne anticorruption était extrêmement centralisée et ne s'est pas du tout attaqué aux causes de la corruption. C'est-à-dire qu'il y a eu purge après purge après purge et que tout le monde est sous la terreur, tous les cas du parti. Mais tout ça s'est fait sous l'égide de la commission de discipline qui a été centralisée. Il y a une nouvelle institution, il y a eu de nouvelles lois qui ont été passées depuis 2012 pour mettre en place la lutte anticorruption. Mais les causes de la corruption qui sont primordialement locales, dans les rapports qu'ont les cadres du parti locaux avec les élites locales, ne sont pas du tout mises en cause, pas du tout enquêtées. En fait.
Oui, donc ça va plutôt dans le sens d'une instrumentalisation de cette lutte contre la corruption. François Bougon.
Oui, après, cette histoire de la corruption en Chine, je trouve une question extrêmement complexe. Et par exemple, répondre à votre question sur est-ce que c'est quelque chose de moral chez lui ou uniquement instrumental, je pense que c'est extrêmement difficile de répondre à ça. Je pense qu'il y a les deux, deux éléments. La difficulté de la corruption en Chine, la lutte contre la corruption, c'est un élément traditionnel du discours communiste depuis Mao, en fait. Le problème, c'est que ça met à nu la contradiction même du système du parti, de l'État-parti. C'est-à-dire que vous n'avez aucun organisme indépendant qui est capable de lutter contre les dérives des cadres locaux. Et donc, vous vous retrouvez aujourd'hui avec, il suffit de regarder les discours récents de Xi Jinping, sur cette idée que l'ennemi principal et l'ennemi primordial, enfin l'ennemi principal du parti aujourd'hui, c'est le parti lui-même. C'est-à-dire le comportement des cadres, le fait qu'ils s'habituent à avoir du pouvoir. Donc comme ils s'habituent à avoir du pouvoir, ils en profitent pour favoriser leur famille, favoriser les réseaux économiques, etc. Et donc en fait, c'est un vrai problème, mais c'est un problème de fond, c'est un problème structurel du pays.
Alors, on parle de maoïsme, est-ce qu'on peut parler de chiisme? C'est d'ailleurs l'intitulé d'un de vos chapitres, François Bougon. On va essayer de comprendre ce que ça pourrait être, le chiisme. Il y a toujours, évidemment, chez les dirigeants chinois, des petits slogans, des petites formules qui sont censées résumer un peu leur projet politique. Les quatre modernisations de Deng Xiaoping, les trois représentations de Jiang Zemin, la société harmonieuse de Hu Jintao. Pour Xi Jinping, c'est le rêve chinois. Alors, le rêve chinois, c'est quoi, Juliette Genevà? Et qu'est-ce que ça révèle du projet politique de l'actuel président chinois?
Le rêve chinois, c'est évidemment une idéologie nationaliste, je le répète, assez réactionnaire, c'est-à-dire que c'est l'idée que la Chine doit maintenant acquérir un statut international qu'elle a perdu depuis la fin du 19e. En fait. Donc l'idée, c'est que la Chine, compte tenu aujourd'hui de la puissance économique qu'elle a acquise, des ambitions technologiques qu'elle a, et de sa présence à l'étranger, doit avoir voix au chapitre. Et donc les Chinois doivent être représentés sur la scène internationale et doivent être fiers. En fait, c'est une question de fierté nationale, donc c'est un projet nationaliste.
Jusque-là, rien d'extraordinaire.
Rien d'extraordinaire. Et en fait, il active toute une série de symboles politiques qui, en Chine, existent depuis même avant Mao. Qu'on retrouve dans les écrits de plusieurs intellectuels chinois, notamment au tournant du XXe siècle, qui est la recherche de puissance et de richesse. Et en fait, ça, la puissance pour Xi Jinping aujourd'hui et pour beaucoup de Chinois, en fait, de tradition assez diversifiée depuis un siècle, ça inclut aussi la puissance militaire. Du coup, Xi Jinping a lancé en 2016 une réforme militaire d'ampleur qui restructure totalement la chaîne de commandement, qui met l'accent sur l'intensification de la modernisation technologique des armées. Et tout ça, c'est aussi bien une question d'image au sein du pays qu'une question de projection de puissance. Donc je pense que la Chine n'a aucune velléité d'entrer en guerre aujourd'hui, mais l'instrumentalisation de l'armée comme symbole politique est très, très important. Et on le voit, en fait, même dans la manière dont il gère ou il ne gère pas la crise à Hong Kong. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je pense que le parti ne veut surtout pas refaire un deuxième Tiananmen et envoyer des troupes. Mais les troupes ont été l'image des troupes. Il y a eu cet été la diffusion d'un clip vidéo de l'armée populaire de libération qui s'entraînait à la répression anti-émeute.
Dans lequel on expliquait qu'on n'avait pas besoin de très longtemps pour arriver sur Hong Kong. En moins d'une heure, on était sur place.
Voilà, mais évidemment, c'est le dernier recours. C'est vraiment une arme politique qui est psychologique, d'où l'importance des célébrations, de la place de l'armée dans les célébrations des 70 ans du régime.
François Bougon, sur le chiisme, sur le rêve chinois, alors il y a d'autres formules, quand on écoute un peu la rhétorique de Xi Jinping, on parle aussi de l'avènement d'une société de moyenne aisance, Jiao Kang Shei Wuyu, mais qui est en fait en réalité une formule que l'on entend depuis une quarantaine d'années déjà, qu'on entend même s'attendait même à l'époque de Mao, hein, si je ne m'abuse. Mais c'est central dans son projet politique, François Bougon.
Oui, alors après, est-ce que c'est du... Enfin, oui, on pourrait dire c'est du sciisme, etc. Alors, la différence, je pense que le maoïsme en tant que tel avait une vocation universelle, je pense, dans le combat face à l'Union soviétique, dans les camps communistes. Mao avait une prétention à imposer une sorte de modèle universel. Je ne pense pas que Xi Jinping ait cette prétention-là. Après, moi, ce qui me frappe chez Xi Jinping, c'est que autant Mao regardait vers l'avenir, autant Xi Jinping passe son temps à regarder vers le passé, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que je trouve qu'il manie à la fois l'histoire du parti, qui est assez récente, en fait. Et donc, il y a beaucoup de faiblesses sur la capacité du parti à conserver le pouvoir. Et la manière de faire face à ça, chez Xi, je trouve, c'est de manier tous ces concepts politiques qui reviennent, alors qui sont des réécritures de l'histoire. Et c'est pour ça que je parle de l'homme de la Renaissance, parce qu'en fait, c'est comme quand on est sorti du Moyen-Âge et que tout d'un coup, on a commencé à recréer une Rome et une Grèce totalement imaginaires en Occident. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que Xi Jinping et l'appareil de propagande recréent en permanence une Chine imaginaire, une Chine impériale imaginaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui y croient, en fait. Jean-Pierre Raffarin est le premier en France à croire à ce mythe. Mais c'est un mythe. Cette Chine n'a jamais existé, en fait. Mais voilà, il manie le passé pour affermir sa légitimité politique, la légitimité d'un parti qui n'a plus la révolution comme but.
C'est la raison pour laquelle il fait régulièrement référence à Confucius. Voilà, peut-être une figure qui est évidemment centrale dans l'histoire de la Chine. Mao, évidemment, lui, il l'avait balayé d'un revers de main. Xi Jinping, lui, au contraire, s'appuie largement sur cette figure-là. Ça révèle peut-être quelque chose aussi de son projet politique.
Il s'appuie sur ce que lui désigne comme les valeurs traditionnelles, la civilisation traditionnelle chinoise. Et donc, il peut faire appel à un moment donné à Confucius, mais il va faire appel à un moment donné à Mao Zedong. Il va faire appel après au légiste, Han Fei. C'est pas un philosophe. Mao se voulait philosophe, écrivain, etc. Lui, c'est pas un philosophe, c'est un homme politique qui manie des concepts en fonction de la situation politique pour affermir son pouvoir. Et donc, vous allez voir, c'est vrai que, par exemple, ils viennent de publier la revue théorique du parti qui s'appelle Tio She, Rechercher la vérité, vient de publier un grand texte, et c'est l'intervention de Xi Jinping en janvier 2018 devant les nouveaux cadres qui ont intégré le comité central. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est une réflexion sur pourquoi, au cours de l'histoire chinoise, les dynasties impériales ont perdu le pouvoir. Et donc, il dit, voilà, il démarre à Qing Shi Huangdi, qui est quand même la grande figure de celui qui aurait unifié la Chine, et puis tout le monde après, voilà. Et donc, il cite à la fois des auteurs classiques, dès le départ, il cite des auteurs classiques, et notamment une expression qui est tirée des analectes de Confucius, mais après, on en vient vite à Mao Zedong. Donc, en fait, voilà, le sciisme, c'est ça, c'est une capacité de synthèse d'éléments de la culture chinoise qui sont à la fois des éléments de culture traditionnelle, mais aussi des éléments de la culture communiste chinoise.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Juliette Geneva? Regardons un petit peu précisément, vous parliez, François Bougon, du comité central. Si on regarde un peu les réformes politiques que Xi Jinping a engagées, s'agissant vraiment du fonctionnement du Parti communiste chinois. Je ne parle pas de son action économique, de la question de la défense, on évoquera tout ça peut-être dans quelques instants. Mais si on regarde la réforme du fonctionnement de cet appareil, de ce parti-État, est-ce que l'arrivée de Xi Jinping a changé quelque chose?
Non, très peu. Je pense qu'il a simplement consolidé ce qui existait. Une chose qui restera sous lui, c'est la multiplication, mais encore une fois, c'est pas nouveau, mais ce qu'on appelle les petits groupes dirigeants qui permettent au sommet du parti de regrouper des gens qui appartiennent à des ministères différents. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Simplement, il y en a eu des nouveaux sous Xi Jinping et il en a fait, par exemple, un sur la défense des droits maritimes, qui évidemment est une de ses priorités. Et surtout, il les dirige quasiment tous, ce qui est évidemment impossible, mais disons qu'il a voulu marquer, encore une fois, son nom sur ses priorités politiques qui sont toujours gérées de manière comme ça interministérielle. Disons que le parti est tellement vaste et les sujets que il y a beaucoup de flexibilité institutionnelle, curieusement, et lui, il a renforcé ça en multipliant les petits groupes dirigeants.
Mais pourquoi il le fait ? Je pose la question que je posais tout à l'heure dans l'introduction, dans mon petit chapeau. Est-ce que cette concentration du pouvoir, c'est le fruit d'une volonté individuelle ? Il veut du pouvoir, Xi Jinping, donc il concentre les pouvoirs, il fait des commissions dont il est le président ? Ou est-ce que ça révèle aussi peut-être une fragilité interne d'un parti qui en réalité serait un peu déséquilibré avec des luttes internes, des divergences, et qui ferait qu'en réalité, pour que l'édifice tienne, il faut nécessairement qu'un seul, en l'occurrence Xi Jinping, soit à la tête du système.
Alors, je pense
comment voyez-vous les choses ?
C'est plutôt qu'une soif politique. Je veux dire, il a tous les attributs de l'homme d'État. Il a plus besoin de ça. C'est plutôt une sorte de paranoïa du contrôle, je pense. Et en effet, ça révèle une faiblesse à la tête du parti, puisque ce qui a fait la force du parti au moment des réformes, donc au moment où la Chine se libéralisait d'un point de vue économique et social pendant 40 ans depuis Deng Xiaoping à la fin des années 70, ça a été la structure du parti qui était collective à tous les échelons. Donc possibilité de débat au sein du parti, délégation du pouvoir, et ça c'est quelque chose sur lequel Xi Jinping revient de manière systématique.
François Bougon.
Moi, je pense qu'en fait, il y a chez lui, il y a cette idée. Alors là, on en vient sur une vision historique, mais c'est ce qu'on appelle en chinois « xing shuai », c'est-à-dire à la fois la prospérité et le déclin. Et l'idée que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en faisant référence à ce discours de janvier 2018, il y a l'idée que tout pouvoir, de toute façon, mais ça, il suffit de lire Carl Schmitt pour s'en apercevoir, c'est une fois que vous avez réussi à conquérir le pouvoir, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous l'institutionnalisez ? Comment vous faites en sorte qu'il reste permanent ? Et en fait, chez Xi Jinping, et je pense qu'il faut comprendre aussi qu'il a été traumatisé par la chute de l'Union soviétique. Il l'a redit en janvier 2018. Il a dit, il n'y a pas eu un seul mais. Alors, puisque c'est une émission sur les hommes forts, il a dit, il n'y a pas eu un seul nan-er. En chinois, c'est le mec, c'est celui qu'on a, quoi. Il n'y en a pas eu un seul pour se lever quand, et il dit pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus cette confiance dans l'idéal. Et donc, en fait, lui part du principe qu'il faut avoir une confiance dans l'idéal, c'est-à-dire l'idéal communiste selon vu par les Chinois. Et par ailleurs, ça passe par une concentration extrême du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y a des défis à la fois internes et à la fois externes. Et que pour faire face à ces défis-là, de toute façon, la seule solution, c'est de faire en sorte que le pouvoir soit ultra concentré. Donc c'est une vision qui est vraiment centralisatrice.
Et la concentration du pouvoir, c'est une chose. Après, il y a peut-être aussi une autre qui est la question de la dérive autoritaire. Quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, quelques mois après, on a annoncé la fin du système de la rééducation par le travail mise en place par Mao à la fin des années 50, hein, ce système qu'on appelle Lao Jiao. Je parle sous votre contrôle, François Bougon. Et on avait dit, voilà une formidable avancée, c'est la fin du travail forcé, etc. Et puis aujourd'hui, quand on regarde les choses, on nous dit, regardez au Xinjiang, la répression des Ouïghours est absolument terrible, comme si en réalité il y avait une forme de constance dans le mode de répression du régime vis-à-vis de toutes les dissidences, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire, à la fois évidemment au début un mouvement dont on a l'impression qu'il y a un véritable progrès, un véritable changement, et puis d'un coup un retour en arrière avec un durcissement du régime. François Bougon, je vous vois pas tout à fait d'accord. Alors, je vais vous laisser la parole et ensuite Juliette Genevin.
Non, mais je pense que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que bon, la réforme du Lao Tiao, c'était quelque chose de toute façon qui était dans l'air du temps depuis longtemps, etc. Et ça veut pas dire. Et alors là, c'est là donc il faut retenir un peu cette question où on parle du confucianisme. À mon avis, c'est le légisme qui explique le mieux Xi Jinping, si on veut essayer de comprendre et le mettre dans une perspective historique. C'est-à-dire l'idée que pour gouverner, de toute façon, vous devez avoir un droit, mais le droit sert à gouverner le pays et vous imposer ce droit au peuple. Et le peuple doit suivre des règles. Et Xi Jinping, il est tout le temps dans ce discours-là. Et en fait, cette concentration du pouvoir, elle va de pair avec l'idée qu'il faut un homme fort. Voilà. Il y a eu, alors, juste pour essayer d'expliquer, il y a eu quand même le sentiment au sein d'un certain nombre de gens au sein du parti, dont Xi Jinping, à la fin du mandat de Hu Jintao, que Hu Jintao avait laissé trop de latitude à la société civile, qu'on avait laissé des ONG, notamment des ONG étrangères, commencer à opérer en Chine, etc. Et ça, ça a été quand même une leçon pour Xi Jinping. C'est-à-dire, d'ailleurs, on ne va pas faire ça. On ne va pas permettre de, ce genre de choses d'avoir lieu parce que ça nous rappelle l'Union soviétique. C'est comme ça que ça a commencé en Union soviétique. Donc voilà, c'est à la fois de la concentration du pouvoir et une conception autoritaire du pouvoir.
D'où peut-être la réaction aujourd'hui vis-à-vis de Hong Kong. Juliette Genevin.
Alors, c'est en effet important de parler de l'usage que fait Xi Jinping et le Parti communiste chinois du droit en général, puisque en effet c'était intéressant. En 2013, il a aboli le Lao Tiao, et là, la véritable politique de génocide culturel qui a lieu au Xinjiang, en fait, réinstitue les Lao Tiao sous un autre nom. D'abord, le parti les a en a dénié l'existence. Maintenant, il dit que c'est des colonies de vacances. Depuis, en fait, Jiang Zemin, le Parti communiste dit qu'il faut faire un plus grand usage du droit dans la gouvernance en Chine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le droit, en fait, le parti en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que le droit est un instrument pour le parti. Il n'y a aucun constitutionnalisme en Chine. Et une des plus grandes évidences là-dessus, c'est qu'il y a eu la mise au silence d'un des plus grands penseurs du droit qui s'appelle Xu Zhongrun à l'université de Tsinghua depuis quelques années, qui lui était évidemment une des voix les plus importantes pour une alternative politique en Chine, mais c'est un vrai penseur du droit constitutionniste en Chine. Il a été complètement mis au silence par un décret personnel de Xi Jinping. Donc, et en même temps, ce qui est assez difficile à tenir en même temps, c'est que le parti, parce que l'Assemblée nationale populaire qui promulgue les lois, mais c'est l'exécutif en fait qui les fait passer. Le parti fait passer un certain nombre de lois très importantes qu'il faut garder à l'œil, notamment dans l'extension du domaine de la sécurité nationale qui permet beaucoup de dérives, en particulier au Xinjiang, mais ailleurs aussi. Donc il y a un usage très particulier du droit en Chine sur lequel il faut garder l'œil et qui n'a en fait rien à voir avec le nôtre.
François Bougon, avant d'accueillir un nouvel invité, Romain Franklin, avec qui on va parler du coup de Hong Kong et revenir sur cette affaire des éditeurs qui avaient été enlevés du côté de Hong Kong.
Oui, je voudrais juste prolonger, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi cette idée à un moment donné, même parmi des gens au sein du parti à la fin du mandat de Hu Jintao, je me souviens de textes sur la démocratie est une bonne chose, la démocratie intérieure, le constitutionnalisme, ce genre de dossier. Et Xi Jinping, lui, a décidé de réprimer toutes ces voix qui sont pas des voix dissidentes, mais qui étaient des voix internes au parti sur la possibilité au sein du parti de faire émerger des contre-pouvoirs, des espaces de discussion et ce genre de choses. Et donc, dans le texte qu'il diffuse en 2013, le document numéro 9, l'un des ennemis, c'était le constitutionnalisme, puisque l'idée que la Constitution puisse être une référence, selon lui, amène de toute façon à la démocratisation.
On est avec vous, François Bougon, et vous, Juliette Genevin, dans cette série consacrée aux nouveaux hommes forts en Asie. Aujourd'hui, on parle de Xi Jinping, le nouveau grand timonier, même si l'un et l'autre, vous nous avez quand même un peu nuancé les choses. Le parallèle, la comparaison, c'est bien, mais enfin, attention de ne pas en abuser en la matière. En tout cas, on va accueillir dans un instant un nouvel invité. On va revenir sur ces éditeurs qui avaient été enlevés à Hong Kong, c'était fin 2015.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Où est Libo? Pourquoi ne répondez-vous pas aux Hongkongais? Le principe d'un pays deux systèmes a presque disparu si vous ne répondez toujours pas à ces questions. Les Hongkongais sont très inquiets.
Le gouvernement hongkongais accorde beaucoup d'importance à cette affaire. Parce qu'il y a eu des rapports selon lesquels les autorités chinoises auraient arrêté ou enlevé la personne à Hong Kong. Si c'est le cas, cela n'est pas acceptable au regard du principe un pays, deux systèmes. Hong Kong est gouverné par les Hongkongais avec un haut degré d'autonomie. Et cela n'est pas acceptable selon la loi fondamentale.
Voilà, cet épisode, fin 2015, en quelques semaines, plusieurs libraires hongkongais disparaissent assez mystérieusement, et alors que la police de Hong Kong procède à une enquête, la femme de l'un d'eux leur indique que c'est plus la peine de les chercher, expliquant qu'il a écrit une lettre indiquant qu'il se porte bien, qu'il collabore à une enquête avec les autorités de Pékin. Bref, c'est un peu mystérieux tout ça. À l'époque, tout le monde s'inquiète de voir Pékin s'attaquer au principe du un pays, deux systèmes, et on a bien raison, qui a présidé depuis la rétrocession de la colonie britannique en 97. On le voit aujourd'hui. Bonjour, Romain Franklin.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, ancien correspondant à Pékin pour Libération. Vous avez co-réalisé le documentaire Le Monde selon Xi Jinping qui avait été diffusé sur Arte. Pour bien comprendre cet épisode, faut se pencher sur les livres, Romain Franklin, qui avaient été vendus par ces libraires. En quoi les ouvrages proposés posaient-ils problème? Pourquoi ont-ils provoqué l'ire de Xi Jinping dont on parle ce matin?
Alors, ils ont provoqué la colère de Xi Jinping parce que ces libraires, mais qui étaient aussi des écrivains, hein, qui rédigeaient en partie ces livres étaient plutôt d'un caractère assez fleuri en général, et on avait vraiment à boire et à manger sur la... ils parlaient de politiciens chinois avec leur vie, sur leur vie privée, etc. Et là, ce qui a provoqué la colère de Xi Jinping, c'est un livre en particulier qui allait sortir... sur lui, qui s'appelait, dont le titre était prévu, c'était Xi Jinping et ses sept maîtresses. Alors évidemment, on peut en rigoler, tout ça, mais le truc, c'est que l'auteur de ce livre, qui est un des cinq kidnappés, avait apparemment mis la main sur un document assez accablant, qui est une confession... une autocritique qu'a rédigé Xi Jinping dans les années 80 quand il était gouverneur du Fujian, la province du Fujian, dans laquelle il reconnaît qu'il a eu une affaire extra-conjugale, il s'en excuse auprès du parti, et en général c'est comme ça que les choses s'arrêtent dans le parti, une fois qu'on reconnaît ses erreurs, c'est bon... sauf que
donc attendez, ce que vous voulez nous dire, Romain Franklin, pour qu'on comprenne bien, c'est que ce qui posait problème, c'est pas tant finalement les relations extra-conjugales de Monsieur Xi Jinping, mais c'est ce fameux document, cette autocritique qui aurait pu constituer un motif, peut-être, je sais pas, d'exclusion du parti et peut-être mettre en péril son avenir politique. C'est ça le problème?
Alors, dans le livre allait être publié le fac-similé de cette autocritique. Il faut savoir quand même que le parti a toujours une vision très 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 prude des affaires de sexe. Hein. Toutes les personnes qui ont été virées pour corruption, on leur met toujours sur le dos le fait qu'ils avaient tant de maîtresses, etc., etc. Donc le fait que le grand leader du parti lui-même ait eu ce genre d'affaires extra-conjugales, ça le délégitime complètement, pas seulement aux yeux du public, mais surtout aux yeux du parti, qui est toujours extrêmement puritain sur ce genre de choses. Il est totalement délégitimé et il ne peut plus être numéro un du parti. De ce simple fait. Donc l'enjeu est énorme pour lui.
Il y a quelque chose qui est étonnant, Romain Franklin, c'est qu'on se dit, si ce document, cette autocritique est un problème aussi important pour lui, pourquoi ce document n'a pas été utilisé par d'autres? Parce que j'imagine que d'autres auraient pu essayer de le déstabiliser, de le faire tomber en utilisant ce document. J'imagine que les libraires d'Hong Kong ne sont pas les seuls à l'avoir.
Ce document, on ne l'a pas. Apparemment, il n'y avait que l'un de ses éditeurs, donc Gui Minghai, qui l'a obtenu. Les seules choses que j'en sais, c'est un des cinq kidnappés, le seul qui en a réchappé et qui s'est enfui, et qui m'a raconté cette histoire personnellement, d'ailleurs. Il m'a dit, avec ce document, et d'ailleurs, lui, il a été interrogé pendant 9 mois... pendant qu'il était kidnappé par la police politique chinoise, et on lui posait sans cesse des questions sur ça, sur ce document, etc. Est-ce que vous savez qui l'a, etc. Apparemment, Gui Minhai, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, avait mis la main sur ce document, on ne sait trop comment, peut-être qu'il avait soudoyé quelqu'un qui travaillait aux archives du parti dans la province du Fujian, allez savoir, mais on l'a pas ce document, mais on sait que c'est ça qu'il cherchait.
Alors, il y a certains libraires qui ont été libérés. Je pense par exemple à Lam Wing Kee. Alors, faut peut-être aussi raconter le contexte de sa libération, parce qu'au départ, il accepte un deal avec les autorités de Pékin. Il est censé retourner une journée à Hong Kong pour aller récupérer des informations sur son ordinateur et les livrer aux enquêteurs chinois, sauf que ça va pas vraiment se passer comme prévu.
Non, parce qu'il arrive à Hong Kong et là, lui qui avait été coupé de toute information pendant à peu près 9 mois, hein, si je me trompe pas, arrive à Hong Kong et il découvre qu'il y a des tas de manifestations pour lui, pour ses collègues qui ont été enlevés, qui ont lieu en ce moment même, et du coup il est submergé d'émotions et il se dit mais en fait. C'est moi qui avais raison, et du coup il décide de tout déballer et donc il convoque une conférence de presse et il raconte absolument tout ce qui s'est passé. Alors ses collègues ne peuvent pas faire la même chose parce que eux ils ont de la famille en Chine et donc le Parti communiste se sert toujours de la famille comme otage. Or lui, il a à peine quelques lointains grand-oncles, il pense que ça n'aura pas d'importance, et en plus il pense que il joue un rôle extrêmement fort politique en faisant ça.
Mmh. Vous restez avec nous, je voudrais faire réagir nos invités ici, Juliette Genevà, François Bougon. C'est intéressant parce qu'on voit que là, en fait, dans cette affaire des libraires à Hong Kong, on a en germe ce dont on parle régulièrement sur la crise hongkongaise, c'est-à-dire la fameuse loi d'extradition, cet outil que Pékin voulait mettre en place pour pouvoir justement arrêter les gens tranquillement à Hong Kong et les ramener en Chine continentale, et évidemment l'opposition qu'il y a eu derrière ça et tout le mouvement de contestation qu'il y a depuis des semaines, finalement on le voyait déjà derrière cette affaire des libraires de 2015.
Oui, parce que le mouvement qui a lieu aujourd'hui prend ses racines dans le mouvement des parapluies de 2014 de toute façon. Et ce mouvement-là, il avait germé à partir de politiques du parti, comme l'éducation au patriotisme que le Parti communiste chinois avait imposé dans les écoles à Hong Kong. Donc c'est la mainmise graduelle du Parti communiste chinois sur Hong Kong qui a fait que depuis à peu près 6-7 ans, Hong Kong se trouve à la merci du Parti communiste alors qu'il était censé quand même pouvoir préserver une autonomie institutionnelle et judiciaire.
Et quelle volonté politique, François Bougon, de Xi Jinping dans tout ça? Parce qu'on rappelle toujours cette fameuse formule « un pays, deux systèmes » qui était la formule qui avait été énoncée par Deng Xiaoping en 97 au moment de la rétrocession de Hong Kong. Qu'est-ce qu'il veut, Xi Jinping? Est-ce qu'il veut le préserver, justement, ce principe de « un pays, deux systèmes » ou est-ce que au contraire, en réalité, il veut fondre les deux?
Ah non, moi, je pense que Xi Jinping, il a une vision impériale. Je pense que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Chine, il faut juste acter le fait qu'aujourd'hui, la Chine se considère comme une grande puissance. Donc, ce qu'elle est. Donc, elle a des comportements, et alors ça, il faudrait puiser dans l'imaginaire politique chinois, mais elle a des comportements qui sont, alors, à mon avis, qui s'apparenteraient à des comportements de colonialiste dans ses frontières, et vis-à-vis de Hong Kong, elle considère, de toute façon, Pékin considère que Hong Kong fait partie de la Chine, et donc il y a un certain nombre de décisions qu'elle considère justes, et d'ailleurs par exemple de faire en sorte que sa police politique puisse aller chercher des opposants. Il n'y a pas de frontières, sa puissance n'a pas de frontières.
Et alors est-ce que ça pourrait aller jusqu'à une intégration, une annexion de Hong Kong? Prenons pas au hasard, hein. La Russie a bien rattaché la Crimée il y a quelques années maintenant, en mars 2014, personne n'y a rien dit.
Bon, après, la question est complexe, c'est-à-dire je pense pas qu'il y ait une volonté jusqu'en 2047 d'annexer purement et simplement Hong Kong. Il faut garder les apparences. Hong Kong est très important pour plein de raisons, et notamment financières, économiques, pour l'élite chinoise. Donc annexer et faire fi des traités internationaux, ce serait provoquer des crises qui seraient qui serait contraire aux intérêts des élites politiques et économiques chinoises, parce que Hong Kong, c'est la tirelire de l'élite chinoise. Mais dans le comportement chinois vis-à-vis de Hong Kong, on retrouve le même vis-à-vis du Cambodge, vis-à-vis de la Thaïlande, c'est-à-dire, à un moment donné, la puissance de la police chinoise, elle n'a plus de frontières.
Donc ça veut dire qu'en réalité, on parlait tout à l'heure des inquiétudes, voire parfois un peu de l'hystérie des puissances occidentales qui voient cette montée en puissance de la Chine. Au fond, elle se fait avec une certaine retenue. Quand on compare Pékin cette fois à Moscou, au fond, la Chine opère un rattrapage de façon plutôt dans la retenue, Juliette Genevà.
Vous voulez dire vis-à-vis de Hong Kong?
Oui, absolument. Ouais. Je me fais pas le défenseur, je suis pas l'avocat de Xi Jinping, hein, mais j'essaye de regarder, de mesurer les choses. Et quand on fait un comparatif entre la manière d'agir d'un Poutine depuis Moscou et de Xi Jinping depuis Pékin, force est de constater qu'il y a plus de retenue du côté de Xi Jinping.
On peut voir ça comme de la retenue, on peut voir ça aussi comme une grande peur, parce que je pense que la crise à Hong Kong, elle est quand même d'une gravité très 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 intense pour le Parti communiste chinois. Je le disais tout à l'heure, quand même, je veux dire, Hong Kong fait partie de la Chine aujourd'hui, depuis 97, c'est une province autonome. Il y a plusieurs statuts administratifs au sein des provinces chinoises. Hong Kong en a un singulier que aucune autre n'a, mais donc elle est censée avoir, en tout cas jusqu'en 2047, une autonomie politique et judiciaire. C'est directement ça que compromettait la proposition de loi d'extradition. Mais Hong Kong fait d'ores et déjà partie de la Chine. Donc les crises qui ont lieu aujourd'hui à Hong Kong menacent directement la légitimité du Parti communiste chinois en compromettant absolument la stabilité politique et sociale dont le parti se veut garant. Vraiment, à mon avis, aujourd'hui, la situation en Chine, elle est proche de la situation d'une guerre civile.
François Bougon, en guise de conclusion, ce sera le mot de la fin.
Oui, non, quand vous parlez de retenue, alors ils sont peut-être retenus, mais quand on voit ce que le pouvoir de Xi Jinping fait à la fois au Xinjiang et au Tibet, quand ils ne font pas preuve de retenue, c'est assez inquiétant.
C'était un peu pour vous provoquer aussi. Merci beaucoup en tout cas à Romain Franklin qui était à l'instant avec nous par téléphone, réalisateur, co-réalisateur, je le rappelle, du Monde selon Xi Jinping, qui était un excellent documentaire. Je le dis vraiment sans flagornerie, c'était absolument excellent. C'était diffusé sur Arte. Je pense qu'on doit pouvoir retrouver ça assez facilement. Merci à nos deux invités, Juliette Genevard, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRSEM, Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Un grand merci également à vous, François Bougon, journaliste à Mediapart, auteur notamment, je les récupère, de vos deux livres, La Chine sous contrôle, Tiananmen 89-2019, qui était paru au Seuil, mais également Dans la tête de Xi Jinping, c'était chez Actes Sud. Évidemment, vous avez reconnu la voix de cette cantatrice, François Bougon.
Peng Liyuan.
C'est
Peng Liyuan.
Bravo, bravo. Et donc la femme de Xi Jinping, qui était la réelle vedette en réalité, hein, quand il est arrivé sur la scène politique. La vraie vedette, c'était pas lui, c'était elle.
Bien sûr.
Merci beaucoup. On poursuivra demain notre série de portraits consacrée aux hommes forts en Asie. Et nous parlerons demain de Shinzo Abe, c'est ça. Pour l'heure, c'est Brice Couturier, l'autre homme fort.
Le tour du monde des idées. Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors il y a une trentaine d'années, Fukuyama croyait voir dans l'effondrement du bloc soviétique, les prémices d'une fin de l'histoire. On est bien revenu aujourd'hui de ces illusions, mais qu'est-ce qui est venu les remplacer, Brice?
En deux articles synthétiques récemment publiés sur le site Telos EU, Serge Champeau réussit le tour de force de présenter et de confronter entre elles les deux tendances lourdes qui nous tiennent lieu de philosophie de l'histoire en ce début du 21e siècle. L'auteur est un ancien professeur de philosophie en Cagne, aujourd'hui chercheur à l'Instituto de Gobernanza Democratica à San Sebastián en Espagne. Et il expose les deux théories qui apparaissent en effet comme les deux versions les plus opposées de ce qui constitue de nos jours l'équivalent d'une philosophie de l'histoire. La collapsologie et le néo-progressivisme. D'un côté, la dystopie d'un effondrement systémique et de l'autre, la confiance optimiste dans le génie humain et la science dont Stephen Pinker donne la formulation la plus aboutie. En un mot, ceux qui prétendent qu'un point de non-retour a été atteint dans la destruction de l'environnement et que l'humanité, ayant creusé sa tombe, elle a perdu toute chance de survivre, perspective assez peu enthousiasmante, vous en conviendrez. Et puis, ceux qui persistent à proclamer que le programme des Lumières demeure aujourd'hui d'actualité et que non seulement l'humanité n'a jamais aussi bien vécu qu'aujourd'hui, mais qu'elle a en main tous les moyens de vivre encore mieux demain. Alors précision, la philosophie de l'histoire est un genre qui avait assez mauvaise presse ces dernières années. Les fortes convictions nées au cours du XIXe siècle à propos d'un sens de l'histoire, la mise à jour de prétendues lois du développement historique ont nourri les idéologies totalitaires du XXe. Nous avons ainsi subi les tentatives léninistes d'accoucher l'histoire au forceps en faisant advenir le fameux mais introuvable communisme par la liquidation de toutes les couches sociales non susceptibles d'y participer. Et nous avons souffert du projet national-socialiste délirant d'extermination de peuples entiers au nom d'une forme de darwinisme zoologique appliqué à l'espèce humaine. Des expériences qui ont enseigné la prudence face à tout discours prétendant connaître à l'avance le sens que doit prendre l'histoire humaine. Les philosophies de l'histoire existent parce qu'il n'y a pas de science de l'avenir, écrit Serge Champeau, et que nous ne pouvons pas vivre et agir sans construire une représentation du sens de ce processus global qu'est le devenir de l'humanité. Mais voilà, certains d'entre eux, à défaut d'être vrais, sont plus vraisemblables que d'autres.
Alors Brice, commençons comme il est d'usage par les nouvelles plutôt mauvaises que nous disent les collapsologues.
Que nos systèmes socio-économico-techniques sont devenus tellement complexes qu'ils sont terriblement vulnérables aux crises et que justement les plus graves se profilent à l'horizon. Que l'humanité est tellement engagée dans une impasse déjà que nous n'échapperons pas au sort qui a eu raison dans le passé des habitants de l'île de Pâques. Sur le site The Conversation, un article intitulé « La collapsologie est-elle une science ?» a été publié par un professeur en sciences de gestion de Toulouse, Jacques Higalens. Et que dit-il? Tout en reconnaissant aux collapsologues le mérite de mettre en question certains de nos mythes fondateurs, comme la croissance ou le caractère nécessairement bienfaisant des sciences, ils mettent en question la prétention de cette philosophie à construire le discours transdisciplinaire à laquelle elle prétend. Professeur de Toulouse qui met en question, c'est pas les collapsologues eux-mêmes. Il dit que le fait de partager un concept est à l'évidence l'effondrement en éteint ne construit pas à lui seul une discipline scientifique, car celle-ci suppose une articulation de concepts qu'on ne trouve pas dans la collapsologie, selon donc mon professeur de Toulouse, Jacques Higalens. De son côté, Serge Champeau, que je citais tout à l'heure, relève que les collapsologues hésitent entre deux types de démarches. Tantôt, ils présentent leur théorie comme scientifique, une espèce de science de l'effondrement, si vous voulez, prétendant édifier une synthèse surplombant toutes les sciences existantes, qui sont déclarées au passage partielles. Mais tantôt, il penche plutôt vers une philosophie, je dirais une sagesse résignée. Dans une autre fin du monde est possible, Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle en appellent d'ailleurs à une collapsosophie, à une remise en cause radicale de notre vision du monde qui demeure productrice et donc prédatrice, à une sorte de révolution intérieure afin d'être prêt à la survie le jour du grand effondrement. Le grand reproche qu'adresse Serge Champeau à la collapsologie, c'est de procéder d'une philosophie, je cite, nécessariste. Certes, admettent les collapsologues, à l'origine du mauvais chemin pris par nos sociétés, il y avait une part de contingence, des décisions pernicieuses prises par des dirigeants aveugles ou corrompus, mais par leur faute, l'humanité entière est engagée sans retour dans une aventure dont l'issue ne peut être que fatale. La contingence, en effet, est devenue nécessité.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, c'est Olivier Gesbert et La Grande Table.